Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. On va rentrer dans le ventre d'un écrivain, pas que celui de Lionel Davous, mais de tous les écrivains et les auteurs et les autrices, puisqu'on a une table ronde unidirectionnelle avec Lionel sur comment on écrit de la fiction. Alors, Lionel Davous, si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il l'écrit, notamment Les Dieux Sauvages, Port d'âme, Les Contes Hybrides chez 1115, très chouette petite nouvelle, La Volonté du Dragon, Les Questions Dangereuses. Et d'autres. Il a aussi été anthologiste, il est aussi traducteur. Si vous êtes habitué des imaginales, vous avez donc l'habitude de le voir sur scène en train de traduire les autres et d'intervenir. Il a été aussi anthologiste et il vient de commettre un livre qui s'appelle « Comment écrire de la fiction ». C'est un des grands sujets qui le préoccupe et surtout sur lequel tu communiques beaucoup. Hein. Il y a le podcast Procrastination, pardon. Il y a une rubrique éphémère sur ActuSF qui s'appelle Geekitude. Geekitude. C'est dimanche.
J'aime bien les mots qu'on ne peut pas prononcer.
Ouais, c'est ça. Il y a trop de lettres dans ce truc-là. Et puis donc ce roman aux éditions Argile qui vient de paraître. Petit sondage pour commencer. Promis, après, il parlera beaucoup plus que moi. Qui écoute Procrastination dans la salle ? Voilà. Et qui a lu Comment écrire de la fiction ?
Voilà. C'est pour voir à quel point, à quel endroit je place le discours. C'est parce que si vous avez l'habitude de m'entendre rabâcher les mêmes trucs, c'est pas la peine que je rabâche encore les mêmes trucs.
Donc on va parler pendant une heure d'écriture. Hein. N'hésitez pas évidemment à intervenir s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir. On est entre nous, on est dimanche, donc on est plutôt cool. Il est 16h, c'est l'heure du goûter, donc autant vous dire qu'il nous manque quelques petits gâteaux et on est plutôt pas mal. Pour commencer, on va peut-être commencer par le commencement. J'ai envie d'écrire un roman. Il y a un conseil de Stephen King, lire beaucoup, écrire beaucoup, c'est la base pour toi ?
Clairement. C'est vrai qu'il y a un truc qui me rend un peu triste, qu'on voit assez régulièrement passer sur les réseaux, c'est une espèce de serpent de mer. Vous avez un auteur ou une autrice qui dit pour écrire, il faut lire beaucoup. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent en faux contre ça. Moi, ça m'évoque toujours le fait de, par exemple, quelqu'un qui fait « Moi, je veux devenir guitariste de rock, mais surtout, je n'écoute jamais aucun disque. » Ou alors, je veux devenir photographe, mais surtout, je marche dans la rue les yeux fermés. C'est étrange comme attitude, parce que il s'agit pas... Alors, peut-être que ça vient d'une espèce de crainte qui vient d'un certain enseignement de littérature un peu classique en France, qui peut être cette espèce d'aspect qui dit « Ah, il faut avoir une culture encyclopédique. » On parle absolument pas de ça. On parle de s'ouvrir la sensibilité esthétique, de simplement lire pour voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, car on a le droit de ne pas aimer des trucs. On a aussi le droit de se dire « Ah ouais, mais moi j'ai pas trouvé ça bien, mais c'est une chouette approche, un chouette thème, et j'ai envie de le traiter à ma manière, et évidemment je le ferai mieux. » Ce qui est tout à fait un carburant de création qui existe et qui est légitime. À partir du moment où, évidemment, on plagie pas, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Et puis en plus, normalement, à partir du moment où on écrit, c'est aussi parce qu'on a une certaine sensibilité, un certain amour pour la narration écrite. Et donc, personnellement, il me paraît étrange et dommageable de ne pas vouloir s'exposer à la forme d'art qu'on est censé pratiquer. Ça me paraît un peu obscur et puissamment contre-productif. Et aussi, l'autre truc, c'est évidemment l'écriture. Et ça, ça paraît un truisme, mais c'était quand même suffisamment important pour que Robert Heinlein, qui a écrit 5 règles de l'écriture, ça soit la première, c'est « Tu dois écrire ». Et ce qu'il y a derrière aussi, je pense, c'est parce que l'écriture est un art qui est profondément inscrit dans la durée. C'est long d'écrire, c'est long de lire aussi, hein, de recevoir un texte. Et c'est quelque chose qui s'apprend vraiment beaucoup sur la durée. Ma petite théorie personnelle là-dessus, c'est que si ça s'apprend vraiment sur la durée, c'est que c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres arts que de travailler des techniques en isolation. C'est-à-dire, si je fais de la guitare, je peux faire une gamme. Bon, ça va pas forcément être rigolo, mais en gros, je peux le faire. Si je fais du dessin, je peux travailler la perspective. Si vous baladez dans les jardins, par exemple à Paris, vous voyez constamment des cohortes. Alors maintenant, on les revoit. Des cohortes d'étudiants et étudiantes en beaux-arts qui se baladent avec des carnets de croquis et qui croquent approximativement tout ce qui passe. L'écriture, c'est un peu plus difficile parce que c'est compliqué de travailler la description en isolation d'une histoire. C'est compliqué de travailler le dialogue en isolation des personnages. Donc c'est quelque chose qui se fait sur la durée, et donc quelque part, plus vite on commence et plus on en fait, et plus vite on apprend, en fait. C'est assez mathématique quelque part.
J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, très bien, j'ai une idée d'histoire. Hein. Évidemment, alors il y a toute la théorie des jardiniers et des architectes, hein, les gens qui se lancent, qui ne savent pas jusqu'où ils vont, ou les gens qui ont besoin d'un cadre très précis. Par quoi, toi, tu conseillerais de commencer ?
Alors, moi, j'ai une marotte qui me revient régulièrement, c'est que, avant tout, apprendre à écrire, c'est apprendre à se connaître. Et il y a vraiment mille et mille façons de procéder en écriture. C'est vrai, comme l'écriture est un peu un domaine et un art un peu impressionnant, parce que ça se base sur, encore une fois, ça se base sur la durée. Écrire des bouquins, ça peut prendre des années. Ça prend du temps, à la fois dans la réalisation et aussi dans la période de sa vie que ça peut représenter. Il y a un côté un peu impressionnant et on peut être pas mal à la recherche un peu de la formule magique qui va me permettre d'aller plus vite. Ce qui est une quête tout à fait légitime, mais qui a été la mienne aussi, donc je ne crache pas du tout là-dessus. Le truc, c'est que malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grands trucs. Je ne peux pas vous dire, commencez par là, ça va forcément bien se passer. Parce que tout le monde fonctionne différemment, donc ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Il y a une phrase, je crois que je l'attribue depuis des années par erreur à Elisabeth von Harburg, parce que Elisabeth est super, mais je crois qu'en fait c'est Elisabeth George qui l'a dit, c'est le corset. Il y a vraiment cette... quand on a une idée, quand on écrit un truc, il y a cette espèce de truc très, très viscéral et très, très intime. Tu parlais de vente de l'écrivain, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment tripal comme sensation. Il y a vraiment ce côté... c'est vraiment cette espèce de côté de réjouissance à certains moments, de se dire « Ah ouais, ça c'est cool !» et c'est un sentiment vachement important en fait. Donc il en va ainsi pour évidemment les projets qu'on a envie de faire, il en va aussi de la sorte pour la manière dont on a envie de travailler. Et je pense que c'est important de construire et d'aller à la recherche et d'expérimenter beaucoup dans son approche. Alors, pour pas complètement faire une réponse de Normand, parce que je suis breton et que constitutionnellement j'ai pas le droit, et pour quand même essayer de donner une espèce de début d'élément de réponse, je pense que par où on commence, je pense qu'on commence avant tout par accumuler de la matière dans tous les sens. Je crois résolument que, j'allais dire toute entreprise artistique, je connais un peu la composition et beaucoup l'écriture, donc je peux pas dire toute, mais j'ai quand même l'impression que ça fonctionne comme ça. C'est un travail qui est plus d'émergence et de découverte progressive d'un projet que étape 1, écrire le chapitre 1, étape 2, écrire le chapitre 2, étape 27, écrire le chapitre 27, étape 28, profit. Ça serait bien si c'était comme ça, mais et c'est là que c'est d'ailleurs l'objet du premier article sur Geekriture, c'est là que les méthodes de travail et de productivité se cassent un peu la figure. C'est pas une liste de tâches, c'est une œuvre, quelle qu'elle soit, va faire un tout achevé ensemble qui va fonctionner. Et ça va mais en fait, à la création, ce tableau achevé n'existe pas. On part à la recherche de celui-ci. Et donc, moi, je crois vraiment que les personnes qui fonctionnent de manière très linéaire en se disant, même les architectes, et je suis architecte, ça n'existe pas, on fonctionne beaucoup plus par... Le cerveau fonctionne par analogie. Et la création fonctionne par analogie. C'est-à-dire, je pense à un personnage qui va me faire penser à la culture dont il vient. Ça va me faire penser à l'environnement physique. Ça va me faire penser peut-être l'environnement physique à ce qui s'est passé il y a 3 millions d'années quand mon monde est né. Ce qui va peut-être me faire penser à une règle magique. Ce qui va me faire penser à un autre peuple. Qui va me faire penser à un autre personnage. Et tout ça fonctionne en réseau ensemble. Et en fait, on interroge constamment le truc. Donc, pour moi... Commencer par quoi ? Commencer en fait par jeter un maximum de notes sur le papier ou sur son ordi ou sur son téléphone ou peu importe, pour essayer constamment d'aller à la recherche de ce truc-là et vraiment quasiment, enfin, tous les, en fait, j'ai pas envie de dire tous parce que j'ai pas souvenir qu'on m'ait fait une réponse différente. Spoiler, hein, quand des auteurs et des autrices se retrouvent ensemble, d'abord évidemment ils parlent d'argent parce que voilà. Non, c'était la blague qui dit que de quoi parlent les auteurs et autrices entre eux, ils parlent de trucs littérature vachement élevés. Non, ils parlent pognon. Non, on a quand même des discussions élevées et on parle de la création. Et en fait, quasiment, enfin, aucun auteur et autrice, en tout cas que je me souvienne, à qui j'ai discuté en disant « Non, mais en vrai, toi, tu travailles comment ?» Personne ne dit « j'invente ». Tout le monde se dit « je découvre, je pars à la recherche et j'interroge ». Donc c'est vraiment ce truc de se dire, on est très humble quelque part devant son propre boulot, sa propre création, sa propre idée. Il s'agit constamment d'interroger le truc et de pas avoir peur de sauter du coq à l'âne parce que c'est une espèce de processus presque onirique de découverte, même quand on est architecte. La seule différence, probablement, c'est que le jardinier va écrire et faire ce travail au fil de l'écriture. L'architecte est un gros flippé de la vie et va le faire, encore une fois, je suis architecte, et va probablement faire ce travail au début pour s'expliquer ce qu'il ou elle va faire, quitte à partir dans une autre direction, pour le faire avant d'écrire.
Tu notais, on a dit, donc, noter toutes les idées, et toi, tu dis, rien n'est jamais perdu. Hein, au contraire, il faut... Il faut tout jeter parce que même inconsciemment, ça infuse et ça permet de trouver des trucs.
Il y a, alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les idées sont bonnes à prendre et que toutes les idées vont finir dans un projet, mais il y a alors une aussi des trouilles et parfois des fausses conceptions qu'on a peut-être un peu plus en France, mais qui est un peu aussi aux US, qui est cette espèce d'idée que d'où vient l'angoisse de la page blanche en général, c'est, alors plutôt pour rigoler sur l'histoire de l'angoisse de la page blanche, Robert Sheckley, auteur de SF de l'âge d'or, extrêmement drôle, disait « Moi, quand j'ai du mal à écrire le matin, je me mets devant ma machine à écrire et j'écris mon nom. » Je fais Robert Sheckley. Et au bout d'un moment, mon inconscient fait « Ah, arrête, c'est trop chiant, je vais te donner des trucs à écrire. » Et en fait, l'angoisse de la page blanche, je pense au fur et à mesure, en tout cas, bon, je vous dis ça aujourd'hui avec l'endroit où j'en suis. De toute façon, tout ce que je vous raconte, c'est que je vous dis ça aujourd'hui avec l'endroit où j'en suis. Donc, c'est dans Comment écrire de la fiction, c'est la première phase, c'est douter de tout, y compris de ce que je vais vous dire, Bouddha. Donc, c'est important, douter de tout, y compris de ce que je vous dis. Je ne suis pas Bouddha, mais c'est quand même une phrase que je reprends à mon compte. En gros, l'angoisse de la page blanche vient souvent, je pense, de l'idée de se dire « il faut que j'écrive un truc qui soit bien ». Et non, en fait. Aucun bouquin ne naît fini. C'est bien pour ça qu'il existe cette notion du premier jet. Donc il faut ne pas avoir peur de repartir dans l'expérience, parce que tout ça est une exploration, tout ça est une expérience. Et certaines idées viennent au moment les plus invraisemblables. Quand vous êtes à l'écoute de ce que votre inconscient vous sert, y compris des idées pourries, parce qu'il y a des idées qui ne sont pas terribles, en fait, ça établit une relation de jeu avec l'inconscient qui fait, en gros, j'ai vu, en plus c'est marrant, j'en discutais hier encore avec un camarade qui me disait, ah, j'ai eu traversé un peu une période un peu avide, là je me suis remis à noter des trucs et en fait, bah, ça revient. Et en fait, l'inconscient est une drôle de machine. À partir du moment où l'inconscient vous sert des idées et que vous les notez, l'inconscient va faire, ah bah tu m'écoutes, bah, je vais t'en donner davantage. Alors que si vous ne notez pas, l'inconscient fait « Pourquoi est-ce que je me fatiguerai au bout d'un moment ?» Donc, c'est important, je trouve, d'avoir, même quand on fait son boulot et qu'on doit produire X pages par jour, d'avoir cette relation vraiment ludique avec son inconscient. Et à un moment, même si vous savez pas... Le travail de la raison consciente chez l'artiste au sens large, pour moi, en tout cas, surtout pour ce que je pourrais dire les arts narratifs, consiste à, ensuite... piger où est-ce que tous les éléments disparates qui nous sont servis dans le désordre vont s'agencer pour faire un produit fini. Donc, ça donne la liberté d'avoir des idées un peu aléatoires et de les rejeter. Ça donne la liberté aussi de se dire, où vont ces idées-là dans le projet que j'ai en tête ? Et parfois, ça peut être même se dire, en fait, cette idée-là, en fait, elle appartient pas à ce projet-là, mais alors, par contre, c'est une idée du super roman que je vais écrire après. Parce que l'inconscient ne sait pas. L'inconscient, son boulot, c'est pas de faire les trucs dans l'ordre. L'inconscient, c'est de s'amuser, d'aller papillonner et de faire « Oh, regarde, ça c'est cool. » Et maintenant, c'est quoi ton boulot de la raison ? Ordonne. Moi, c'est pas mon boulot. Donc, je pense que c'est vraiment un important jeu. Alors, c'est vrai qu'il y a cette espèce de mythe de l'inspiration ou de la muse. Moi, je suis plutôt rationaliste comme garçon. Mais je ne peux pas nier qu'il existe justement cette espèce de part inconsciente qui vous sert des idées. Et peu importe la manière dont ça marche, le truc, c'est que c'est là, c'est que ça existe. Donc le truc, moi, il y a le bout dans Elizabeth Gilbert, donc l'autrice de Eat, Pray, Love, qui plaide, je trouve qu'elle a raison, pour une relation plus harmonieuse avec sa créativité, et donc il s'agit d'essayer d'entrer en collaboration avec elle. Le boulot de l'inconscient, c'est de servir les idées qui sont cool dans le désordre. Le boulot de la raison et le boulot de l'exécution et de la technique littéraire, c'est de faire en sorte d'emmener les gens avec soi dans son projet.
J'ai mon idée d'histoire, je sais à peu près où je veux aller, même si je suis jardinier, j'ai au moins une direction. Il y a un truc important, c'est le choix du point de vue. C'est à partir d'où je raconte mon histoire.
Alors ça, c'est plus technico-technique, mais c'est vrai qu'en faisant des... Donc je donne des... Je vais pas dire des cours, mais des ateliers d'écriture depuis un certain temps maintenant, conférences aussi sur la créativité, etc. Et parmi une des briques de base qui me semble vraiment les plus fondamentales dans l'écriture et qui pose assez de problèmes. Alors, j'ai pas trop. J'essaye d'éviter d'avoir un discours technico-technique, de dire alors, vous devez absolument maîtriser X, Y et Z, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des trucs qui s'interprètent tellement que c'est difficile de les travailler en isolation. Il faut tous les maîtriser idéalement, mais bon, ça s'apprend. Par contre, un truc qui me paraît une brique fondamentale, avec laquelle, sans laquelle c'est quand même difficile de raconter un truc efficacement, c'est le point de vue. C'est. Est-ce que tout le monde voit ce dont je parle en parlant de point de vue, ou est-ce qu'il y a des gens qui font... parce que du coup, autant tout le monde est à peu près au taquet sur la différence entre narration et personnage. Je vois des oui, je vois des non. Bon, grosso modo, très rapidement, dans la fiction, on va dire avec les formes les plus couramment répandues et les plus couramment admises, la narration n'est pas forcément confondue avec le personnage qui vit l'histoire. Ça n'est que dans un seul cas, c'est si c'est au jeu. Si je raconte mon histoire... Je suis personnage. En fait, il y a trois échelons, je vais la faire comme ça. Il y a trois échelons dans un récit de fiction. Il y a l'auteur ou autrice, il y a les personnages, et il y a la narration. Il y a de qui c'est narré. Si j'écris mon autobiographie, les trois couches sont confondues. Je vous raconte mon histoire qui m'est vraiment vécue. Alors après, on pourrait dire, est-ce que l'autobiographie n'est pas une autofiction, etc. Bon, bref. Après, il y a la fiction qui est... Je suis un alien de la planète Glub. Alors, spoiler alert, je ne suis pas un alien de la planète Glub. Donc, l'auteur ou l'autrice est dissocié de la couche de narration et du personnage. Et après, la forme la plus courante de la narration, c'est ce qu'on raconte, ce qu'on dit, ce que les Américains appellent le personnage point de vue, c'est-à-dire Bob était un alien de la planète Glub et inventa une machine à voyager dans le temps. Donc je raconte la chose à la troisième personne, mais je suis quand même dans la tête des personnages. Donc il y a plusieurs formes de narration qui sont diverses et qui vont au-delà aussi du personnage point de vue. Maîtriser la manière dont on place... Alors, virtuellement la caméra et maîtriser la manière dont on va raconter l'histoire et à partir de quel point de vue et de quelle forme, c'est consubstantiel de la manière dont on va raconter l'histoire. La manière dont je vais raconter l'histoire est absolument fondamentale dans la manière dont l'histoire dont je vais raconter, ça ne peut pas être dissocié. Et c'est une notion parfois qui n'est pas toujours très claire, que j'avais pu voir dans l'atelier, et si je devais dire, s'il y a vraiment, parmi les techniques vraiment les plus fondamentales de l'écriture, et en plus, ce n'est pas compliqué à maîtriser, en fait. Je veux dire, dans Comment écrire de la fiction, ça doit faire 2-3 pages maximum. Et donc, savoir ça, de quel point de vue je raconte et quel est le point de vue le plus efficace pour raconter mon projet, ça me paraît un truc fondamental à capter. Mais je veux dire, si vous êtes un peu attentif, attentive aux bouquins que vous lisez, aux romans, vous allez les trouver, ces formes-là. Et d'où aussi l'importance de la lecture, c'est que je vais m'imprégner de ces formes-là et de ces codes et de ces techniques. Juste sur l'importance de lire, un truc qui est important dans quelle que soit la forme d'art qu'on pratique, c'est la notion de code. Il n'y a pas de règles, mais il y a des codes. Et les codes, ce sont, on va dire, un ensemble de motifs qui ont été consacrés par l'usage. Connaître les codes, ça a un double intérêt. Ça a un intérêt parce que ça me permet, en tout cas notamment dans les arts narratifs, de savoir, de piger plus ou moins à quoi mon lecteur-lectrice va s'attendre et va imaginer inconsciemment à partir d'un motif de narration. Ce qui me permet à ce moment-là, soit de le servir, le code, soit de twister le code, soit de carrément de casser le code. Donc c'est ça, ça a l'intérêt à la fois narratif, mais ça a un intérêt aussi en termes d'énergie du récit. Si je cherche à écrire un roman, mettons, je parle dans un truc de science-fiction ultra avant-gardiste, dans l'univers et extrêmement compliqué, on peut s'interroger, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein, mais on peut se poser les questions. L'art, c'est toujours l'intérêt, c'est de se poser les questions. On peut se poser la question de se dire, est-ce qu'il est pertinent à ce moment-là aussi de complètement casser les codes narratifs. Est-ce que je ne vais pas épuiser mon lecteur-lectrice au bout d'un moment? Est-ce qu'il ne serait pas à ce moment-là pertinent d'utiliser un code qui est consacré par l'usage et qui donc est transparent et qui donc va permettre au lecteur-lectrice de se dire je dois mettre mon énergie et mon attention ailleurs, là où ça va être compliqué. Après, on peut dire j'ai envie de tout péter et on y va. La maison des feuilles de Danielewski, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un des plus grands bouquins du XXe siècle. Il a tout pété. Et ça marche. Et c'est un des plus grands bouquins du XXe siècle. Maintenant, notamment quand on fait ses premières armes, c'est comme quand on apprend à jongler. Quoi. Est-ce que c'est super pertinent de jongler avec 10 torches enflammées quand on n'a jamais jonglé avec des balles? Bon, vous pouvez avoir le talent. Hein. Vous pouvez être super, être Mozart d'entrée et direct, ça marche. Maintenant, je pense qu'il est toujours plus sûr de ne pas considérer qu'on est Mozart, ne serait-ce même que pour une question de satisfaction personnelle, qui est de se dire « j'essaye de faire des trucs, mais je me tue et je m'épuise et je me décourage ». C'est pas drôle. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a que des codes. Donc la question pour moi, c'est de connaître les codes et de savoir où est-ce que je vais mettre l'énergie, où est-ce que je vais mettre l'attention, et moi, avec combien de torches je vais essayer de jongler.
Il faut de la biafine, quoi. Un bouquin, une histoire, c'est aussi une promesse. Hein, dès le départ, je pose un postulat et je fais une promesse à mon lecteur. Comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, la promesse narrative, c'est un vocabulaire. En fait, la promesse narrative, alors je vais essayer de la faire courte, mais la promesse narrative, c'est plutôt un vocabulaire qui nous vient du cinéma, je crois, mais qui fonctionne parfaitement dans tous les arts narratifs. C'est-à-dire que tout récit va vous faire un certain nombre de promesses, grandes et petites, mais tout récit va faire une promesse fondamentale, quel qu'il soit, même de littérature postmoderne, c'est « t'as pris mon bouquin, je vais pas gâcher ton temps ». Je veux dire, de base. Après, il peut y avoir une autre promesse qui est « tu vas passer un bon moment, insérez ici la valeur de bon que vous pensiez ». Certaines préfèrent lire du roman sentimental, certaines préfèrent lire du roman d'horreur. Il n'y a pas de... Voilà, chacun voit son truc là où il ou elle a envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment quand même les promesses fondamentales de la fiction. Après, les promesses narratives vont être... une promesse, c'est... Le récit va introduire un certain nombre... Alors attention, je vais sortir des gros mots. Un certain nombre de systèmes et de motifs dans la narration. Le personnage, c'est un motif, par exemple, c'est un système. Qui vont avoir du sens dans la narration et qui, à un moment, vont arriver quelque part. Même dans la littérature de l'absurde. C'est-à-dire que dans En attendant Godot, Godot n'arrive jamais. Vladimir et Estragon passent toute la pièce à attendre un mec qui n'arrive pas. L'absurde et son discours. C'est-à-dire que quelque part, là, on a presque quelque chose qui est méta. Alors, je prends l'exemple d'En attendant Godot parce que je ne veux pas faire de l'utilitarisme. L'exemple d'En attendant Godot, quand on n'arrive pas, c'est le discours, l'absurde est son propre discours. Mais quelque part, il y a quand même une raison d'être là, qui est la raison d'être là, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être là. Mais c'est le jeu méta-narratif qui va dessus. Donc, la promesse narrative fondamentale de la littérature, c'est qu'elle a du sens. Ou alors, c'est que le sens veut dire c'est qu'elle n'a pas de sens. Mais bon, vous voyez l'idée. Restez sur le truc simple, sur le fait qu'elle a du sens. Le lecteur, lectrice, par exemple, dans un roman, on va dire une forme un peu classique, enfin, non pas au sens classique 18e, mais au sens classique du roman, a des personnages qui vont avoir un trajet, et en fait, la promesse, c'est tu vas t'intéresser à ce que je fais. Ces promesses, par exemple, et il peut y avoir ensuite une intrigue, on a les promesses de niveau inférieur, qui sont il se passe quelque chose, quelqu'un veut atteindre ou faire quelque chose, et il va y avoir un trajet narratif qui va avoir un sens, et ce trajet va connaître un dénouement. Alors, tout ça a été très alambiqué pour arriver au pendant de la promesse, qui est non pas le dénouement, mauvais terme que j'ai pris, mais il fallait que j'en mette un, non pas dénouement, non pas résolution, non pas triomphe, non pas victoire, etc., mais paiement. C'est-à-dire, mon récit te donne une promesse, c'est un sens, donne une promesse de niveau inférieur, j'ai des personnages auxquels tu vas t'intéresser, promesse encore de niveau inférieur, qui est, il va y avoir X sous-intrigue, et en fait, derrière tout ça, va vers le paiement. Et le paiement, ça ne veut pas dire le gentil gagne, ça ne veut pas dire A et B se retrouvent vécureux et eurent beaucoup d'enfants, ça veut dire la promesse de mon récit est allée quelque part et j'ai adressé ce qu'elle promettait. Est-ce que c'est un peu nébuleux ce que je raconte ou est-ce que c'est à peu près clair? Non, tout va bien, c'est pas nébuleux. Okay. Donc, cette promesse de paiement est très importante parce que l'idée de paiement, et ça c'est souvent dans les trucs techniques qu'on voit un petit peu trop, qui sont un petit peu trop cadrés, un petit peu trop rigoristes, la notion de paiement est beaucoup plus intéressante parce que la notion de paiement entraîne la possibilité de fin ouverte, entraîne la possibilité de non-résolution. En attendant Godot, Vladimir et Estragon attendent Godot, c'est la promesse, Godot n'arrive pas, c'est le paiement, malgré tout. Donc, et l'idée de promesse-paiement encapsule toute l'idée du fait que la fiction a du sens, c'est-à-dire le sens fondamental. Tu as pris mon bouquin ou mon film, parce que ça marche aussi, et tu es là pour un certain temps, et nous allons passer ensemble un moment qui a du sens, même si le sens, c'est de dire qu'il n'y en a pas. Dans la SF et la fantasy, on a beaucoup moins de trucs postmodernes ou métanarratifs façon d'attendre Godot, donc c'est quand même plus simple. Je prends quand même les cas extrêmes pour dire que même quand la promesse, c'est de dire tout ça n'a pas de sens, ça reste le paiement en fonction du truc. Donc, et ces promesses, pour terminer là-dessus, se trouvent à toutes les échelles de la narration. Mark Twain disait la difficulté de la fiction par rapport à la réalité, c'est que la fiction doit faire sens. Et la réalité, souvent, n'en a pas. Donc, chaque chose, chaque phrase, chaque détail, le but, c'est de ne pas briser ce que John Gardner appelle le rêve de la fiction. Et donc, tout ça devrait idéalement s'enchaîner, sauf si le but, c'est de briser le rêve, parce que ça peut être une intention aussi. Mais idéalement, l'auteur, autrice, en tout cas, alors pas à l'écriture, mais au moment peut-être de la correction, devrait s'ingénier à regarder quelles sont ses intentions, voir quelles sont ensuite les intentions non maîtrisées et inconscientes qui ont émergé à l'écriture, et ensuite d'en prendre conscience, de voir quel est son projet, et après, à l'étape de correction, de servir ses intentions du mieux possible, de manière à ce que tout soit corresponde à un idéal esthétique qui serait l'œuvre qu'on a voulu créer. Quand on a écrit un bouquin, on a l'œuvre qu'on a voulu... il y avait l'œuvre qu'on a voulu faire, on se retrouve avec ce qu'on a fait, et maintenant l'idée c'est d'essayer de faire en sorte d'amener au tour du processus de correction le truc le plus haut possible vers l'idéal platonicien qu'on avait, augmenté de tout ce qui est arrivé à l'écriture qui était inconscient. Est-ce que je plane trop haut ou est-ce que ça va? Ça va? Ok.
Vous planez avec nous alors. Est-ce que ça veut dire que tout doit faire sens dans une histoire?
Surtout pas. Voilà. Ça, c'est le truc très utilitariste à l'américaine. Je suis désolé si vous avez déjà eu l'exemple, mais je l'aime bien. Si vous regardez une série policière à l'américaine des années 80-90, quand il y a la confrontation en aveugle avec les suspects ou avec les gens, la caméra passe sur les gens et à un moment, elle va s'attarder sur un mec avec la musique qui fait tin, 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 et vous savez que c'est lui le méchant. Si vous regardez une série policière des années 2000-2010, là, vous avez tous les mecs qui sont rassemblés, la caméra passe sur le truc et elle s'accarde sur un mec en faisant tin, 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 et vous savez que c'est pas lui le méchant. Exactement, parce que le code a été tellement utilisé que maintenant il est contre-utilisé, mais ça reste de l'utilitarisme. La fiction, souvent des écoles américaines, tend à un excès d'utilitarisme, c'est-à-dire tout ce qui est dans le bouquin doit faire sens. Mais ils le comprennent un petit peu avec une espèce d'excès d'utilitarisme d'intrigue, c'est-à-dire tout doit servir dans l'intrigue. Or, une fonction narrative qui existe tout à fait, c'est l'atmosphère. Je prends souvent l'exemple du cinéma et séries télé parce que souvent c'est des trucs qui brassent un peu plus large et qui permettent de voir un peu plus ces trucs. Dans Avatar, pas le dernier maître de l'air, hein, le film de Cameron, il y a la scène avec les deux protagonistes, j'ai oublié leur nom, qui se retrouvent avec cette fameuse scène qui a coûté 3 millions de dollars où il y a toutes les plantes fluorescentes la nuit. Ils font, oh, c'est joli, Pandora. Alors oui, la fonction narrative de la scène, c'est aussi que les deux protagonistes se retrouvent et font, dis donc, tu me plais un petit peu, toi, tout ça. Mais derrière, à côté de ça, pour le coup, toute la beauté de la planète Pandora by Night, ça n'a pas d'utilité narrative pure dans l'intrigue, à ceci près qu'on peut dire, si vraiment on va chercher loin, oui, mais c'est pour montrer qu'il veut déprendre Pandora, etc. Oui, bon, d'accord, mais c'est quand même pas hyper utilitariste dans l'intrigue. Ça reste juste joli, et ça rentre bien sur la bande-annonce. Ça a une utilité peut-être financière, mais bon... Donc l'atmosphère, c'est important, et c'est particulièrement important dans nos genres, et ça permet de faire respirer une intrigue tout simplement. Alors, en France, on a un peu tendance à faire de l'excès d'atmosphère, et aux États-Unis, ils ont un peu tendance à faire de l'excès d'utilitarisme. J'aime à croire que le moyen terme est possible, et que donc ça revient toujours à fait de se dire, à la correction, hein, c'est pas forcément le rôle de l'écriture, de se dire, est-ce que là, je me suis un peu trop étendu dans l'atmosphère et je peux réduire un peu, est-ce que tel machin, par contre, n'est pas trop utilitariste, et en gros, c'est trop, est-ce que mon steak est trop maigre ou trop gras, quoi. Donc, c'est le jugement esthétique de l'auteur ou autrice qui va essayer de trouver le bon équilibre, hein, comme boucle d'or, le bol pas trop chaud, pas trop froid, quoi.
Et les frites, on oublie les frites avec tout le steak. Est-ce qu'on peut dire la même chose des personnages? Est-ce que tous les personnages doivent être utiles, quoi qu'il se passe, dans l'intrigue, ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des personnages d'atmosphère ?
Alors, c'est plus compliqué comme question, ça. En fait, un personnage porte forcément une promesse narrative forte derrière lui. S'il y a un personnage qui a une description, un nom et une action, derrière, il y a le côté, si je te mets ce personnage-là et que j'ai mis l'attention dessus, c'est que ça va servir, fais attention. En réalité, les histoires de promesses narratives, ça peut être assez fortement corrélé au budget d'attention du lecteur-lectrice. C'est vrai qu'on s'imagine souvent, quand on écrit, on se dit « Ouais, j'ai tous les budgets du monde, j'ai effectivement tous les budgets en effets spéciaux que je veux, je peux avoir un cast infini, etc. » C'est vrai, en termes, par rapport au cinéma, où je ne suis pas limité en termes de budget et de casting. Par contre, il existe quand même un budget dans la littérature qui est l'attention du lecteur-lectrice. L'auteur-autrice choisit ce sur quoi il ou elle met l'accent. Et en disant, parce que c'est toujours la promesse fondamentale derrière, l'accent que je mets sur quelque chose, c'est que c'est signifiant. Signifiant, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait sur l'utilitarisme, ça ne veut pas forcément dire tout va absolument servir exactement dans le déroulé de mon intrigue. Le sens, peut-être, je mets ça parce que c'est joli, et on va faire un détour joli dans un roman de 500 pages, on peut s'en permettre. Après, si c'est que des tours jolis, on va faire où tu vas, quoi. Mais donc c'est possible. Donc les personnages, c'est un peu plus tangent, parce que à partir du moment où on met un accent, un nom, une description sur un personnage, on donne sous-entendu une promesse narrative en disant ce personnage-là va servir. Je vais l'illustrer. Encore une fois, mes excuses pour ceux et celles qui connaissent mes greatest hits et mes exemples que je reprends toujours. Si vous écoutez Procrastination et ou que vous avez lu Comment écrire de la fiction, mais toutes les mains s'étaient pas levées. Donc, si je prends un exemple avec un détective privé qui est déprimé au bar avec le nez dans son whisky parce que c'est difficile et il faut qu'il paye les je crois que c'est un exemple que je mélange entre avec un truc que Jean-Claude Dugnac prend, donc Jean-Claude, mes excuses si je te pique un bout d'exemple à toi aussi, mais si Bob berce son whisky et on dit la plus belle fille du monde entra dans la salle, s'assit à côté de Bob et lui fait essaya de lui faire du gringue, mais Bob ne lui prêta pas attention et la fille s'en alla dépiter. Première version de la scène, deuxième version de la scène, Bob est toujours en train de bercer son whisky. La plus belle fille du monde entra dans la salle, elle avait une grande robe rouge de chanteuse de jazz, elle s'approcha de Bob, s'assit à côté de lui, lui fait « Bah alors, comment ça va pas ?» etc. « Je m'appelle Jessica, tu veux qu'on aille danser ?» Et que Bob lui répondu « Grum, grum, grum » et Jessica s'en alla dans l'arrière-salle dépitée. La deuxième version de la scène laisse entendre et fait une promesse narrative sur Jessica. J'ai donné un nom. Si Jessica ne ressort jamais dans l'intrigue nulle part, effectivement, il faut faire la première version de la scène. Parce que la deuxième version accroche une... je mets suffisamment, en gros, derrière, c'est purement... là, pour le coup, c'est utilitariste. Je mets suffisamment de détails, notamment je nomme, donc cela laisse entendre, ça dit en fait au lecteur en substance, ceci est important, fais attention. Dans le premier cas, la scène, la fille n'est pas nommée, elle a juste... de façon purement utilitariste, une fonction narrative qui consiste en fait à dramatiser le fait que Bob n'est pas dans son assiette, il est plutôt dans son verre. Dans le deuxième cas, ça laisse entendre qu'il va se passer quelque chose et que Jessica est un personnage important qui va arriver derrière. Donc, c'est plus tangent. Après, il y a des personnages qui vont avoir des importances plus ou moins grandes et des utilités plus ou moins grandes. Si un personnage est associé à une sous-intrigue, qui va peut-être se régler en deux pages, ça peut avoir de la pertinence. Après, on peut jouer avec le code. David Gamel était un grand fan de ça, où en gros, il vous introduisait un personnage trop bien, trop cool, trop génial, et deux pages plus tard, il le tuait. Mais c'est du coup, là, à côté de ça, le truc, vous constatez que l'intention, là encore, est toujours maîtrisée. C'est-à-dire, je joue avec le code de faire « Regarde, ce personnage est super important, quick !» Et là, le lecteur fait « Quoi ? Mais comment ? Mais c'est incroyable !» Et c'est ça qu'on veut, au final. C'est que le lecteur se dise « Ah, mais quoi ? Mais comment ? C'est incroyable !» Donc, tant qu'on arrive à faire ça, on fait le job. Et toutes les malhonnêtetés, toutes les truanderies sont possibles. Un auteur-autrice, quelque part, ça reste un prestidigitateur. C'est-à-dire, et le lecteur joue avec le truc, il est content qu'on le mène en bateau. J'ai une petite communauté de lecteurs autour des Dieux Sauvages qui n'arrête pas de venir me voir en disant « on te déteste ». Et je réponds « oui, c'est mon boulot. Mon boulot, c'est que vous me détestiez. Si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai raté mon coup. » Et donc, on adore qu'on nous déteste, en fait. À partir de là, c'est que ça marche.
C'est un grand conseil, hein, tuez vos personnages. Ouais. Non, non, mais Orson Scott Card dit il n'y a pas de grandes histoires sans grands drames. Hein, et George Martin l'a bien compris dans Game of Thrones. C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il faut décrire ou pas ces personnages? Et jusqu'à quel point parfois on laisse l'interprétation, parfois on ne laisse pas l'interprétation?
Ça dépend vraiment, vraiment de l'intention. Là, je pense qu'il n'y a pas de... Encore une fois, hein, alors il y a une phrase que j'aime bien dans Comment écrire de la fiction, c'est tout est possible tant que c'est bien fait. Et bien, ça dépend évidemment de... En gros, bien, ça veut dire quoi? C'est tant que vous avez réussi à emmener un lecteur, lectrice putatif dans votre délire. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas plaire à tout le monde de toute façon. Alors après, quand vous devenez pro, vous espérez que les lecteurs putatifs sont suffisamment nombreux pour vous permettre de payer vos pattes. Mais ça reste, au fond, ça reste le même truc. Donc, tant que votre lectorat arrive à rentrer dans ce que vous faites... Je sais que j'ai des camarades qui disent « Je décris jamais mes personnages, je déteste ça. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, j'aime bien montrer parce que j'aime bien... » En fait... Que mon lectorat visualise. Il n'y a pas de règle absolue. L'idée, c'est toujours, c'est est-ce que vous en donnez suffisamment pour que votre... Pour un lecteur... En plus, parler de lectorat, c'est toujours en plus compliqué parce qu'il y a une infinité de lectorats différents, il y a une infinité de genres, une infinité de gradations. Donc, le premier juge esthétique, ça reste toujours vous. Donc, le truc, c'est est-ce que vous en donnez suffisamment à habiter et à vivre? Si oui... Le boulot est fait. Et si ça passe par le fait de jamais décrire, y a des bouquins qui ne décrivent pas. Et si ça passe par le fait pour vous de dire « Moi, j'ai envie de décrire parce que j'ai envie qu'on voit bien un univers très visuel », ça passe aussi par ça. Martin décrit. Et après, il y a en plus de ça, il y a mille et mille façons de décrire. Un de mes maîtres personnels, qui est Roger Zelazny, qui est un grand maître de l'épure, je cite toujours ce truc-là parce que c'est génial, dans Les Furies, je crois que c'est dans Les Furies, il a un personnage, la description, c'est « Il ressemblait à un ballon de plage surmonté d'une moustache ». Il n'y a pas besoin... en disant ça, on a toutes et tous ici une image différente. C'est une description ultra efficace. Vous avez tous vu un personnage différent, mais vous l'avez vu. C'est bon. Et en plus, ce qui est particulier avec la littérature, c'est qu'on peut se permettre tout un tas de truanderies sémantiques, qui est que, par exemple, cette description-là est plus sémantique que visuelle, même si elle amène un effet visuel derrière. Et juste, je pars en tangente là-dessus en deux mots... Un des trucs qui est parfois un peu tangent, potentiellement délétère, c'est qu'on compare pas mal la littérature aux arts picturaux, aux jeux vidéo, au cinéma, etc., séries télé, parce qu'on vient aussi de là et qu'on est toutes et tous nourris de toutes ces influences qui sont diverses. La littérature, par exemple, à travers une description comme celle de Zelazny, a des techniques qui ne sont pas visuelles et qui permettent de toucher lecteur-lectrice avec d'autres moyens. Et la littérature n'est jamais aussi efficace que quand elle est... Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'inspirer, d'aller piquer des trucs ailleurs en termes de technique, mais elle a ces outils qui sont extrêmement puissants, qui n'appartiennent qu'à elle, et qu'il ne faut pas négliger, au contraire, parce que ça permet de faire des effets géniaux, en vrai, pour pas cher, en plus, comme le montre Zelazny.
Je glisse sur l'écueil du trop, hein, trop de description du personnage, trop de description parfois du monde dans lequel on est ou du système politique. À quel moment on sait qu'on a bien dosé et qu'on n'est pas justement dans le trop descriptif?
Alors bon, là encore, ça dépend. Évidemment. Mais un truc qui je pense, qui est important à acquérir au fur et à mesure, hein, dans les implants, dans les... En fait, c'est marrant. Dans Procrastination, je crois que c'est surtout avec Mélanie Fazi qu'on en avait discuté en off, mais un petit peu avec Estelle aussi. Je sais plus exactement. Je crois qu'on a eu une discussion avec tout le monde. Grosso modo, en particulier, je pense que ça touche tous les arts, mais c'est particulièrement prégnant dans la littérature. Le boulot de la littérature, le boulot d'une fiction, c'est pas de dire, c'est pas de montrer, c'est pas de dépeindre, c'est d'inviter et de faire, de laisser la place au lecteur dans le récit pour l'habiter et pour le construire ses propres présentations. En fait, c'est un boulot de truand parce qu'il s'agit en fait de laisser la place. Un récit n'est jamais... Alors, je vais la refaire. Je vais la faire par une autre, par la bande. Je discutais avec quelqu'un assez haut placé dans les arts du spectacle, mais qui continue à aller dans les spectacles et tout, et qui m'avait dit ça il y a très longtemps, ça m'avait marqué. Il m'avait dit, le boulot d'un artiste scénique, c'est de faire travailler la salle. En tout cas, quand on parle de pop et tout ça. Et en fait... Si, je sais pas si vous probablement tous allez dans les concerts de rock, et en gros, est-ce que vous savez, c'est l'unique rôle d'avoir le chanteur qui arrive et fait ah, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous entends pas. Oui, je vous entends toujours pas. Et en fait, vous vous auto-hypez en faisant ça. Et c'est extrêmement volontaire et résolu de la part, parce que vous vous auto-hypez, et en fait, en faisant ça, le chanteur de rock vous fait travailler et vous fait devenir partie prenante du spectacle. En littérature, on ne peut pas trop faire « Est-ce que vous êtes là ?» parce que parfois, en plus, on nous lit alors qu'on est mort. Donc, c'est compliqué. « Est-ce que vous êtes là ?» Non, c'est l'auteur qui n'est plus là. Le boulot de la littérature n'est pas de dépeindre, le boulot est d'inviter dans les représentations. Et pour faire ça, il faut donner à imaginer, il faut donner à voir. Et c'est souvent plus efficace, comme la description de Zelazny. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, l'apprentissage de la littérature, on a été à peu près toutes et tous tombés d'accord sur le fait qu'on apprend beaucoup au début à représenter, à montrer, on apprend hein, la grammaire narrative, etc. Et une fois qu'on a à peu près arrivé à piger à peu près comment les trucs s'organisent, on commence à enlever, en fait. On commence à enlever pour ne laisser que l'ossature qui va permettre, et c'est subtil, hein, mais je reprends toujours l'exemple de ressembler à un ballon de pêche surmonté d'une moustache, qui est une description parfaite en une phrase, vous avez tout vu, quoi. Et pourtant, il n'y a rien dedans. En termes de mots, c'est extrêmement pauvre, mais pourtant, c'est très évocateur. Et en fait, le boulot petit à petit, de l'auteur, l'autrice, l'idéal, quelque part, c'est d'essayer d'en laisser le minimum possible, parce que l'ouvrage une vie, hein, d'essayer d'en laisser le minimum possible, parce que votre boulot, c'est d'essayer de donner le minimum strict, encore une fois, hein, en fonction du genre, du lecteur et tout, hein, mais pour que votre lecteur-lectrice envahisse le monde, accroche et projette ses propres représentations dessus, tout simplement pour passer un bon moment. Parce que quelles sont les meilleures représentations que le lecteur-lectrice va avoir? Bah, c'est les siennes. Donc en fait, on est un... c'est pour ça que je dis que c'est un boulot truand, c'est parce que le boulot consiste non pas... Alors évidemment qu'on a l'ossature et qu'on a la vision et qu'on essaie de transmettre ça, mais le boulot est aussi de faire en sorte que le lecteur mette au maximum ses propres représentations à lui ou elle pour qu'il passe un bon moment. C'est pour ça que c'est un boulot de truand. Et je termine juste sur une... tout ça est un peu théorique, donc j'essaie de vous donner plus un... une des truanderies dont je suis le plus content, c'est quand j'ai écrit la meilleure scène de torture du monde. C'est en plus, je suis absolument pas prétentieux en disant ça. Je vous explique le truc, c'est que j'ai donc dans la trilogie Léviathan, au niveau du tome 3, il y a une scène de torture et les gens m'en parlent encore en me disant oh, mon Dieu, cette scène de torture, c'était horrible, j'en ai fait des cauchemars, etc. C'est la meilleure scène de torture du monde parce qu'en fait, elle n'existe pas dans le bouquin. J'ai préparé pendant 3 tomes un espèce de personnage fou, etc. J'ai pris un personnage que je savais que les gens adoraient. En gros, le type se fait un peu passer à tabac. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que pendant le reste de à peu près du moment où il se fait torturer, c'est dans une grande maison qui sert un peu de safe house à une société secrète. Et on entend juste des cris qui montent de la cave. Et on reprend le personnage brisé. La scène de torture n'existe pas. Mais pourquoi est-ce que les gens l'ont fait des cauchemars? Parce qu'en fait, ils ont... Tout le monde a imaginé ses pires cauchemars dessus. Alors après, c'est une truanderie que vous ne faites pas toutes les 5 pages et pas tous les bouquins non plus, mais c'est juste pour montrer justement la puissance d'évocation qu'on a et à travers les mots et à travers tous les espaces vides que le lecteur-lectrice va peupler par ses représentations. Et si vous faites ça, vous allez être le meilleur écrivain du monde, sauf que c'est une vaste blague, parce qu'en fait, vous n'avez rien fait. Vous avez juste laissé la place au lecteur de mettre ses représentations qui sont nécessairement bonnes et les siennes, mais c'est le boulot de l'auteur-autrice d'être à la fois au service de son projet et au service du bon moment qu'on espère que le lecteur passe avec nous.
La conférence finit, il nous reste un petit quart d'heure, je voudrais parler de plusieurs choses, de cartographie et de to-do list.
Ouais.
Hein, toi, tu conseilles de la cartographie et la to-do list qui ne marchent pas.
Alors, comme je disais, moi, je pense que les grandes méthodes de productivité, etc., pour moi, ne fonctionnent pas, comme je disais au début, parce qu'il me semble que l'écriture est plus un travail d'émergence. Et en fait, alors si on cherche un peu à rationaliser un peu tout ça, la façon classique hein, de gestion de projet, mais même en solo, qui consiste à dire je fais un diagramme de Gantt, je fais une liste de trucs à faire, Ça ne fonctionne pas pour moi dans l'écriture et dans une entreprise créative parce que le cerveau saute d'un problème à l'autre par analogie, ça va beaucoup trop vite pour que ça vaille le coup d'essayer de faire une to-do list. Je veux dire, la to-do list, elle devient caduque au bout de 5 minutes parce que le cerveau, il fait « Ah non, mais ça, c'était rigolo hier, mais maintenant, ça me saoule, j'ai envie de travailler sur une autre direction qui sera tout aussi féconde parce que c'est là qu'on a envie d'aller. » Donc, c'est plus un travail d'émergence et si on devait essayer de rationaliser, parce que quand même, ce serait bien d'avoir un peu une méthode opérante, d'ailleurs, j'espère que je n'ai pas été trop vaporeux, pour moi, c'est plus un flux de certitude dans l'écriture. Et en fait, tout système ou toute approche de prise de notes, etc., qui pour moi va réussir à encapsuler cette progression, pour moi est pertinente. Comme je disais tout à l'heure, ça commence par des idées, ça commence par il pourrait se passer tel truc, et je pourrais avoir tel personnage qui serait comme ça, et je pourrais avoir telle culture qui serait comme ça. Et donc à partir de là, le travail de création devient un travail d'interrogation constante. De se dire, mais qui est Bidule? Mais où sont les gens? Mais comment ça fonctionne? Ah, il pourrait se passer tel truc, mais on ne sait pas. Tant que le projet n'est pas fini, tant que les épreuves ne sont pas signées et envoyées à l'imprimeur, alors, il ne faut pas changer les projets à 90%, n'est-ce pas, monsieur l'éditeur, sur les épreuves. De toute façon, l'éditeur vous le fait payer, hein, pour info, c'est dans les contrats. J'ai jamais fait ça.
Il y en a un qui font.
mais grosso modo, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord avec, dans la direction éditoriale, tout peut potentiellement changer. Donc, c'est un travail, on construit des ponts. On est un petit peu comme, vous rappelez Bip Bip et le coyote, où en gros le coyote marche et dans le vide et tant qu'il ne regarde pas en bas, il ne tombe pas. Le travail d'écriture, c'est un peu comme ça. On construit des choses petit à petit qui sont des têtes de pont de plus en plus solides. Et donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, l'écriture et le travail de création artistique de manière générale n'est pas un flux de to-do list, c'est un flux de l'idée vers la certitude. Et il y a tous les degrés entre les deux. Et donc, tout travail ou toute approche qui va encapsuler cette idée de se dire « j'ai un personnage, j'ai une culture, mais alors peut-être que ça pourrait fonctionner comme ça. Eh, ça me paraît avoir du sens, peut-être. Mais il y a telle autre idée. Je suis un peu moins sûr. Et puis, une autre idée. En fait, j'ai deux idées qui sont ensemble et elles sont contradictoires. Donc, à un moment, je sais que l'une des deux sera gardée et l'autre rejetée. Mais même parfois, ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être que ces deux idées fonctionnent ensemble, mais il y avait un troisième principe qui était de niveau supérieur que je n'avais pas vu et qui, en fait, fait fonctionner les deux. La relativité restreinte et la relativité générale qui peut-être, en fait, sont un cas particulier l'un de l'autre. Pour prendre l'exemple de notre monde, mais ça peut être, quand on construit un système de magie, deux trucs qui ont l'air contradictoires et, en fait, non, parce qu'il y a un autre principe narratif que je n'avais pas découvert. Et je découvre petit à petit les trucs comme ça. Et petit à petit, je vais aller dans une direction aussi. Et peut-être que là, mon pont va s'effondrer. Et, en fait, du coup, il ne fallait pas aller par là. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ce flux d'émergence est un flux qui ne va pas aller à la même vitesse dans toutes les directions, de l'idée vers la certitude. Et la certitude, ce sera au moment où on se met d'accord sur le bouquin, les épreuves, etc. Donc, pour moi, le travail émerge comme ça, donc c'est pour ça que c'est super important de prendre des notes tout le temps et que, pour aller à la pensée en réseau, alors je vous renvoie sur Geekriture, je ne vais pas vous faire le layer sur la méthode Zettelkasten là tout de suite parce que de toute façon on n'a pas le temps et ça serait un peu abscon peut-être, mais en gros, je vous invite à aller creuser il y a toutes, notamment on vit une époque assez intéressante là-dessus, depuis quelques années, il y a tout un bouillonnement sur la réinvention du texte de manière numérique, sur la prise de notes. Et il y a des tas d'outils absolument fascinants qui se prêtent incroyablement et magiquement bien à cette forme de pensée. Très rapidement, autrefois, si on voulait utiliser un outil informatique, en gros, je schématise, mais un dossier, un fichier, une note existe dans tel endroit. Mais ça fonctionne très très mal pour l'écriture romanesque. J'ai un fichier avec des personnages, mais les personnages, ils n'existent pas en isolation, ils existent avec une intrigue. Mais si j'ai un dossier intrigue, comment je mets les deux en relation? Alors, on commençait à avoir le système des tags, des mots-clés, pour commencer à essayer de sortir de cette structure très, 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 très rigide. Mais en gros, il y a de tas d'outils maintenant qui sont carrément en mode, on fait péter tout ça, en fait, une information peut exister à plusieurs endroits et qui vraiment embrasse ce travail, cette structure émergente. De se dire, peu importe là où l'information vit, je peux lui faire référence où je veux, et donc je peux dire, je suis en train de développer un personnage, il lui arrive X, Y, Z, et en fait je me rends compte que X, Y, Z c'était de l'intrigue, mais c'est pas grave, je prends un autre document et je fais référence à X, Y, Z dans mon dossier personnage. Bref, j'arrête de vous faire l'article, mais il y a une révolution fascinante, et c'est des outils qui sont extrêmement simples à utiliser, mais qui sont très bien pensés, qui jouent avec ça, et c'est vachement intéressant. Je pense qu'on en est qu'au début, et je vous invite, voilà, je vous invite à aller creuser ça, parce que j'ai l'impression, moi je suis en quête de l'outil qui me permet de faire ça et qui d'embrasser ce processus d'émergence depuis à peu près toujours. Et on y est, et c'est vraiment cool. Et quelque part, ça reprend un peu la structure du wiki, mais en encore plus fluide et en finalement extrêmement simple.
Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Lionel? J'en ai encore une petite batterie. Oui, allez-y.
Alors, tout le monde a entendu pour la question ou non? Ok. Alors la question, c'était pour concernant ces outils, est-ce que je fais référence à Scrivener ou à autre chose? Scrivener, très rapidement, c'est, je vais vraiment schématiser, mais c'est le Photoshop de l'écriture, mais en vachement moins cher, parce que c'est un achat unique de 40 ou 50 balles, je crois. Donc, Scrivener, c'est un outil extrêmement puissant en termes d'écriture et de production narrative, très rapidement. Hein, on pourrait le résumer à un traitement de texte hiérarchique, ce qui me permet de structurer mes scènes dans un chapitre, dans un livre, et également de stocker au même endroit tous mes fiches de personnages, mon matos, etc. Alors, Scrivener est un excellent outil de production, mais en l'occurrence, pour les outils émergents, c'est pas à ça que je fais référence, c'est plus à des outils comme Roam, Obsidian, tout ce qui se base sur... Alors, pour moi, c'est vraiment pas des outils de production. Scrivener reste un outil de production qui pour moi est inégalé, parce qu'il s'adapte extrêmement bien à vraiment la structuration d'un récit au fur et à mesure de sa construction. Là, on n'est vraiment plus dans l'idéation, on est dans vraiment la production. Donc Scrivener est idéal pour ça. Pour moi, c'est l'étape d'avant, et c'est un environnement qui est séparé. Donc en fait, en gros, pour schématiser très rapidement la manière dont ces outils fonctionnent, qui sont... En fait, alors en anglais, c'est linked notes, donc c'est les notes par lien, ou c'est la pensée en réseau, network thinking. L'idée centrale de ces outils, alors ils l'implémentent tous un peu différemment, mais en gros, c'est des outils de prise de notes, comme ce qu'était Evernote autrefois, si ça vous dit quelque chose. Mais en fait, l'idée de ces outils-là, c'est l'idéal platonicien. Ces trucs-là, ils l'implémentent différemment, ça ne marche pas toujours exactement de la même manière, mais c'est, je peux avoir des dossiers, mais on s'en fout. L'idée, c'est que je mets une grande masse d'informations, et en fait, toute information est référençable de n'importe où ailleurs. Ce qui fait que l'information n'a... L'idée qu'il y a derrière, c'est que je n'ai pas besoin de structurer a priori mon information. Je peux donc rêver et explorer très joyeusement. La structure va émerger à partir de l'importance que je donne à une information et comment je la référence d'ailleurs. En gros, alors je n'entre pas dans le détail, mais ça vient d'une redécouverte de ce que de la méthode de travail d'un sociologue allemand, mais qui n'avait rien inventé, hein, ça date d'avant, qu'il appelle la méthode Zettelkasten, qui est un type qui s'appelle Niklas Luhmann, qui en fait faisait ça de manière analogique avec des fiches Bristol. Nous, on a le bonheur d'avoir l'hypertexte, mais en fait il faisait l'idée de ces trucs là c'est ces informations là sont référençables de partout, et l'important, c'est autant ce qui est signifiant, c'est-à-dire ce que j'écris, que les liens que je vais tisser entre informations, qui est une sorte de métadonnée, qui n'est pas une métadonnée dans cette approche-là. La métadonnée, pour dire très rapidement, c'est le descriptif d'une donnée. Là, le fait de mettre ces notes en lien va aussi créer du sens pour moi, mon projet structurant. Ce qui fait que, de manière structurante, ce qui fait que, alors, j'entre pas dans l'état de l'implémentation, mais par exemple, certaines idées, je vais me rendre compte que je vais les creuser beaucoup. Et que donc ça veut dire qu'elles ont du sens pour moi. Certaines autres idées, je ne vais pas partir dedans, ça va devenir un peu comme des bras morts dans le flux d'une rivière. Donc, et tout ça se fait naturellement, simplement en écrivant et en me disant où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin ou envie de résoudre, et les choses émergent comme ça. Je vous renvoie sur les articles d'écriture, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus. Mais Niklas Luhmann disait, alors que c'est un type qui a écrit une mémoire, je crois, qui a publié 400 articles universitaires et 60 bouquins dans sa carrière, et c'est un type qui disait, j'ai jamais l'impression d'avoir bossé de ma vie. Alors, ça fait un peu rêver, évidemment, tous les gourous de la productivité font « Ouh, le bon filon !» Mais en dehors de ça, c'est un truc qui est assez génial, et on a des outils qui, en plus, certains sont gratuits pour le faire. Personnellement, moi, je suis un grand fan d'Obsidian, et qui en plus est gratuit pour un usage personnel. Et si vous êtes sous plateforme Apple, j'oscille entre Obsidian et Craft. Craft est beaucoup moins puissant qu'Obsidian, mais Craft est tellement beau que j'aime beaucoup utiliser. En gros, Obsidian, c'est comme souvent dans ces outils-là. Hein. Obsidian, c'est l'outil que je sais que je devrais utiliser, et Craft, c'est l'outil que j'ai envie d'utiliser. Donc je navigue entre les deux, je culpabilise d'utiliser l'un ou l'autre. Mais en gros, vraiment, très simplement, Obsidian, c'est en plus, Obsidian fonctionne sur à peu près toutes les plateformes du monde. Et c'est un truc hyper simple. C'est-à-dire qu'en gros, pour terminer sur ce sujet-là, vous tapez un paragraphe, vous dites « Ah, ça me donne une idée de scène », vous ouvrez deux braquettes, pas des parenthèses ni des accolades, mais des crochets, comme un lien dans un wiki, vous tapez un machin, et par exemple, il pourrait se... idée de scène, deux points, X fait Y, vous fermez vos crochets, et à partir de là, Obsidian se rappelle que c'est une fiche, c'est une idée. Et je peux ouvrir un autre dossier en partant sur un personnage. Ah oui, mais ça me fait me rappeler mon idée de scène de tout à l'heure, que X fait machin. Et là, vous ouvrez vos deux crochets, vous commencez à taper les mots, et en fait, Obsidian va vous sortir la référence de ce truc-là. Et après, au fur et à mesure, vous voyez, il vous trace le graphe de tous vos liens entre les trucs. Vous voyez où se situe l'importance de vos développements, les trucs peut-être qu'il faut développer, etc. Et vous faites tout ça en ne faisant quasiment qu'écrire en flux de conscience. C'est assez cool.
On a le temps pour une dernière question.
Je suis désolé, je suis bavard.
Alors, moi, j'en ai une pour terminer. Là, on a dit beaucoup de choses, on a beaucoup intellectualisé toute l'écriture. Tu sais, c'est comme au golf où on dit parfois il faut 3 ans pour apprendre et 3 ans pour l'oublier.
C'est vraiment ça.
Et voilà. Et comment on fait justement pour oublier un petit peu tout ça au moment de l'écriture ?
Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai tendance à te dire. D'écrire, alors c'est très personnel, c'est rigolo parce qu'on a un épisode de procrastination qui va arriver là-dessus qu'on a enregistré, mais d'écrire le plus vite possible. Les deux grands trucs, c'est toucher son manuscrit tous les jours, c'est-à-dire on entend souvent écrire tous les jours. Écrire tous les jours, ça souvent c'est un conseil qui rend les gens en colère parce que derrière il y a une espèce de notion de culpabilité qui se dit si j'écris pas des pages tous les jours, je suis un écrivain raté. Il s'agit pas du tout de ça, il s'agit de maintenir le contact avec son projet. Moi, maintenir le contact avec mon projet, c'est j'ai fait un road trip avec mon épouse en 2018 dans l'outback australien, et donc on a pris une semaine où j'écrivais pas. En fait, toucher mon manuscrit, c'était en fait on avait des longs kilomètres, et elle était au volant, elle me disait bah vas-y parle-moi de ton bouquin quoi. Et c'est ça toucher, c'est-à-dire je gardais le contact avec le truc. Donc, et ça peut vouloir être juste dire écrire une phrase sur son téléphone. C'est vraiment faire cet effort-là de rester, parce que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail d'incubation. C'est mon dada, mais c'est un travail d'émergence. Et le travail d'émergence, il se fait en entretenant, en visitant, en rendant visite. Le psychiatre Kourosh-Dini parle de ça. Il parle de rendre visite au projet, c'est une idée que j'aime beaucoup. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est vraiment, moi j'ai tendance à dire d'écrire le plus vite possible, parce que je pense que, j'imagine que on est très très nombreux, voire l'intégralité à écrire ici, et je pense qu'on a toutes et tous eu cette expérience avec le mauvais génie posé sur l'épaule qui fait « Non, mais c'est pas... » qui regarde ce que vous écrivez pendant que vous écrivez, qui fait « Non, mais c'est nul ce que tu fais. Tu devrais aller lever des chefs dans le Larzac, ça serait beaucoup mieux. » Et alors, spoiler alert, ça arrive à tous les niveaux d'expérience. Hein. Est-ce que j'ai le temps pour une anecdote rigolote que je pique à Jean-Claude Duniac? Jean-Claude, qui est une anecdote que j'adore, donc je lui pique, qui raconte Neil Gaiman, qui est dans un grand congrès avec, je crois, des prix Nobel, des physiciens, etc. Et ça discute un peu, c'est un congrès, j'espère ne pas faire justice à l'anecdote, c'est un congrès interdisciplinaire, on réfléchit sur l'avenir du monde, avec les sciences, mais également les arts, etc. Et Neil Gaiman berce un peu sa coupe de champagne en se disant, mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis absolument pas légitime. Il sort et il voit un gars d'un certain âge qui est en train lui aussi de bercer sa coupe de champagne, visiblement déprimé. Et Gaiman, et donc le gars regarde le truc et fait, ah... Vous aussi, vous demandez un peu ce que vous faites ici. Franchement, je me demande vraiment ce que je fais là. Et Neil Gaiman lui dit, écoutez, monsieur Neil Armstrong, je pense que le fait que vous ayez marché sur la Lune est peut-être un petit peu un rapport avec le fait que vous soyez ici. Et Armstrong le regarde et fait, bon, vous croyez ? Donc bon, c'est voilà. C'est donc, spoiler alert, ça arrive à, je pense, à tous les niveaux de la création. Donc cette espèce de truc-là, une bonne manière de le court-circuiter, c'est déjà d'écrire rapidement, parce que ça permet de court-circuiter le truc et de se dire, à un moment, le premier jet, Terry Pratchett disait, le premier jet est fait pour s'expliquer l'histoire. Donc, à un moment, il y a cette espèce d'idée que ah, mais si j'écris bien, je vais couper à l'étape de la correction. Non, absolument pas. J'ai fait l'erreur, je vous le dis, ça n'existe pas. En fait, paradoxalement, plus on se lâche, plus on se donne l'occasion d'être mauvais, plus on va ouvrir la porte aux bonnes choses. Et j'ai aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune espèce de corrélation entre la difficulté que vous avez créée un passage et la qualité qui en résulte. Sur l'héritage de l'Empire, le tome 4 des Dieux Sauvages, en écrivant le truc, il y a eu une scène où je l'ai écrit en disant « Oh la vache, qu'est-ce que c'est mauvais !» Bon, je l'écrivais en mode en me disant « Bon, je vais m'en débarrasser et puis je pourrai avancer dans l'histoire, etc. » Je sais que cette note-là, je me suis mis une grosse note rouge dans mes notes de correction déjà en disant « Cette scène-là, c'est nul à chier, il va falloir la reprendre. » Mais vraiment, hein, comme ça, en me disant « Ah, là, là, là. » Et en pensant déjà au fur et à mesure, déjà en me disant « Bon, alors, comment est-ce que je vais virer cette scène pour faire un autre fil narratif ?» Voilà, tout. Et en fait, moi, une fois que le bouquin est écrit, je l'imprime et je le lis comme un lecteur et je la note dans tous les sens en me disant là, je m'ennuie, là, c'est pas mal, là, là, c'est nul, là, c'est beaucoup trop long, etc. Vraiment comme un lecteur. J'arrive à cette fameuse scène en faisant oh, allez, on y va. Je lis vraiment ressemblant comme un lecteur et je me dis mince, c'est la meilleure scène du bouquin. Et vraiment, hein, surpris. Et je me dis, je me suis dit, mais j'avais prévu tout un tas de corrections pour. Je dis, je peux pas la virer, c'est la meilleure scène du livre. Donc. Il faut écrire, essayer, en essayant de faire le truc, je dirais, le plus naturel. Et si ça doit être mauvais, c'est pas grave. Parce qu'il y a l'exemple inverse, hein, rappelez, je pense que je finis là-dessus. On écrit des fois, on revient tard le soir alors que la lune brille sur nous et qu'on se dit je vais prendre un papier, je vais écrire un poème, etc. C'est pareil, Jean-Claude en parle très bien, mais je pense qu'on l'a tous vécu, notamment à l'adolescence. On se relève et on écrit un poème, on a mis notre âme sur le papier. Parfois aussi, on a un peu bu et ça aide. Et ne buvez pas pour écrire, c'est une très mauvaise idée, mais je veux dire, c'est pour faire le truc, vous voyez ce que je veux dire, on revient et tout. Et on relit et on se dit ah, c'est bien, j'ai couché mon âme sur le papier, on revient le lendemain matin, on fait qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors qu'on se sentait vachement bien sur le moment. Donc, écrire en s'autorisant au maximum à être mauvais, parce qu'on ne coupe pas l'étape de correction, et en s'autorisant à être mauvais, parfois en écrivant un peu rapidement, en se poussant, en se disant arrête de te poser des questions, avance, et ben, c'est là qu'on débloque le truc et qu'on enlève le filtre qui n'arrête pas de vous dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Faites taire ça, écrivez, et il sera toujours temps à la correction. Les Américains disent « writing is rewriting », écrire, c'est réécrire. Il sera toujours temps de juger, il sera toujours temps de travailler l'exécution. Là, à ce stade, quand on écrit le premier jet, on est en train de faire le voyage. Il faut essayer de ne pas se brimer en le faisant.
Soyez mauvais, regardez les éleveurs de chefs différemment maintenant et lisez « Comment écrire de la fiction » de Lionel Davous. Merci à vous.
Merci à toi, Jérôme.